Et le texte de ce matin se trouve, enfin les deux textes de ce matin, l'un dans l'évangile de Luc et l'autre dans l'épître de Paul aux Philippiens que nous verrons tout à l'heure. Mais avant de lire la parole de Dieu, j'ai besoin de prier. Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est belle et nourrissante, vivifiante. Mais nous vivons dans un monde brisé et nous sommes brisés. Et nous avons besoin du secours, de la participation de ton esprit pour l'entendre et la vivre, cette parole. Alors verse-le abondamment sur ton peuple maintenant et sur moi qui dois apporter cette parole. Amen. Le premier texte donc concerne Jean-Baptiste justement. Donc je vous invite à le lire. Luc 3. Luc 3. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était le gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Traconitide. Lysanias régnait sur l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain et il proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu vous pardonnera vos péchés. » Comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix d'un homme qui crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins rocailleux seront aplanis et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Voilà la première lecture. Je vais passer un petit temps dessus déjà. Pour nous, ça peut paraître un peu distant, mais en fait, c'est quelques éléments de contexte historique que Luc nous donne au tout début, pose, plante le décor et l'ambiance. L'empereur romain, c'est Tibère, c'est lui au pouvoir. Ponce Pilate gouverne la Judée. Donc la Judée est un territoire occupé. Hérode, un roi violent de la dynastie des Hérodiens, règne aussi sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire voisin. Anne et Caïphe sont les grands prêtres. En fait, il n'y en a qu'un seul, officiellement, c'est Caïphe. Anne, c'est son beau-père. Et il ne plaisait pas au gouverneur qui a précédé Pilate, alors il s'est fait destituer. Mais bon, dans l'ombre, c'est lui qui contrôle vraiment les choses. Et Caïphe, son beau-frère, se fait son exécutant. C'est pour ça que Jésus sera d'abord conduit devant Anne et ensuite devant Caïphe au moment du procès. Donc, que ce soit au niveau impérial, au niveau royal ou au niveau clérical, tous les lieux du pouvoir sont bien ficelés et verrouillés par des personnes corrompues et mauvaises. Et c'est dans ce contexte-là que Jean se met à annoncer la venue d'un roi. Ça pose une tension. Et si on considère simplement les petits détails que Luc nous fournit comme des détails historiques, juste pour situer la scène, sans comprendre qu'en fait, il est en train de pointer du doigt que la situation du peuple est viscéralement captive, on ne voit pas l'enjeu de cette proclamation de Jean qui annonce la venue d'un roi. Il dit « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu vous pardonnera vos péchés. Changez de camp, choisissez un autre camp. » entrer dans la résistance spirituelle. Et comme pour confirmer cette compréhension des choses, Luc, l'auteur, nous fait une citation du prophète Ésaïe qui pour lui fait écho avec cette proclamation de Jean-Baptiste, parce que le texte dit « La voix d'un homme crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Et pour Luc, cette voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Et il faut préparer la route au Seigneur. Alors on a quelques récits dans l'Antiquité de rois, de reines, qui effectivement, quand elles se déplaçaient avec toute leur suite, se payaient le luxe de se tailler une route là où il n'y en avait pas, d'aller déblayer le chemin devant elles. L'armée d'Alexandre le Grand aussi, pour plus d'efficacité stratégique, envoyait parfois une avant-garde qui préparait une route. Et voilà que le Seigneur va visiter son peuple, selon le prophète. Et pour cela, il est bon que toute montagne ou colline soit aplatie, que toute vallée soit comblée, et que les routes deviennent droites, et que les terrains rocailleux ne le soient plus. La semaine dernière, j'avais cherché à raviver en nous, avec les textes qui nous avaient été proposés, l'attente. Ce désir d'attendre, oui, nous cherchons, nous attendons autre chose pour ce monde, pour nos vies, pour le futur. Cette semaine, c'est peut-être comment vivre l'attente, comment entrer dans cette attente. Jean-Baptiste et Ésaïe nous proposent ceci. Changeons de camp. Ou réaffirmons peut-être le camp auquel nous voulons appartenir. Peut-être qu'avec le temps, notre attente s'est lassée et que la fougue, la passion avec laquelle nous avons habité ce nouveau camp, cette étiolée, la résolution avec laquelle nous voulions servir ce nouveau roi, s'est apaisée avec le temps. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste nous appelle, et Ésaïe avec lui, renouvelons cette foi, renouvelons ce désir de vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour ce roi qui vient. Mais Jean-Baptiste a prêché avant Jésus. Jean-Baptiste a prêché à un peuple qui n'avait pas encore bénéficié de la libération accordée par Jésus. Les enfants de Dieu, les Juifs qui entendaient la prédication de Jean-Baptiste, avaient leur force et leur foi, oui, pour changer leur vie intérieure. Nous, nous vivons autre chose. Et pour cette autre chose que nous sommes appelés à vivre, puisque nous avons connu Christ, mort, ressuscité et exalté aux cieux, je vous invite à lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Paul aux Philippiens. Là aussi, dans le premier chapitre. Paul aux Philippiens, chapitre 1. Je lis à partir du verset 3. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. Parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis certain de ceci, Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Il est bien juste que j'aie de tels sentiments envers vous. Je porte en effet dans mon cœur, je vous porte, pardon, en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. J'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capable de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour de la venue du Christ. Vous serez comblé d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Un début de lettre assez touchant parce que Paul est très dans les sentiments. Il semble vivre une affection particulière avec cette église des Philippiens. Et de ce qu'on en comprend de ce texte, cette église s'est emballée, s'est embarquée avec une passion certaine pour la proclamation de l'évangile aux côtés de Paul. C'était une église où, quelque part, ils ont assumé, dans un contexte où le christianisme n'existait pas encore, en pleine religion romaine, ils ont assumé de parler de Jésus-Christ aux côtés de Paul, de soutenir ce Paul qui avait cette prédication bizarre pour l'époque. Et Paul vit une certaine reconnaissance, une connexion particulière avec eux. Et je veux attirer votre attention sur trois passages, et le premier passage que je veux souligner, c'est le verset 6. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il y a un travail qui a été commencé dans l'Église. Il y a une œuvre qui a été commencée dans l'Église. Cette œuvre concerne la proclamation de la parole, la propagation de cette parole que Bruno a voulu mettre en avant. Mais de qui ça dépend? De qui est-ce que ça dépend? Que cette œuvre persévère jusqu'au bout? De vous? De moi? Paul dit, je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Je ne sais pas si encore aujourd'hui, je ne sais pas où se situerait la ville de Philippe. Est-ce qu'il y a encore une église là-bas? Est-ce qu'il y a encore une communauté chrétienne là-bas qui proclame la bonne nouvelle? Ou est-ce que la bonne nouvelle, que ce soit dans cette région-là ou ailleurs, continue d'être proclamée malgré les hommes, parce que Dieu, lui, poursuit son œuvre bonne? Il y a quelque chose ici de rassurant. Frères et sœurs, il y a un train en marche, vous êtes dedans, ou peut-être en train de réfléchir à monter dedans au prochain arrêt. Ce train parviendra à destination, que vous soyez dedans ou non. Mais ça ne dépend pas de vous. Et ça, c'est rassurant. C'est reposant. Et en même temps, je vous le dis, dans ce train, il y a un siège qui vous est absolument réservé avec votre nom dessus et il vous attend. Il restera vide jusqu'au bout du trajet si vous ne montez pas. À la fois, ça ne dépend pas de vous, à la fois, vous êtes pleinement attendu, désiré dans ce projet. Il y a une œuvre bonne que Dieu accomplit à travers son Église et nous sommes pleinement invités à y participer, pleinement invités à y prendre notre part et à y grandir. Et Paul le dit, c'est peut-être lui qui est au front. C'est peut-être lui qui finit en prison parce qu'il a proclamé la bonne nouvelle. Mais il dit, je vous porte tous dans mon cœur, car en effet, vous avez tous part, vous participez à la grâce que Dieu m'a accordée d'annoncer l'évangile aux non-croyants. Aussi bien quand je suis en prison que quand je suis dehors en train de le proclamer, vous êtes derrière moi, vous êtes avec moi, en train de le vivre. Alors la deuxième chose que je veux appuyer maintenant, c'est Paul qui vit cette connexion spirituelle forte avec cette église qu'il a aidé, lancé dans ce ministère. Il a un désir, il demande à ce que Dieu fasse grandir encore leur amour, leur connaissance, leur compréhension parfaite. Dans quel but ? Et ça m'a interpellé. Afin que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Afin que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Et je trouve que dans notre réflexion sur comment est-ce qu'on attend Jésus, comment est-ce qu'on vit l'avant, une chose qui n'est pas facile, c'est de trouver qu'est-ce qui est important. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important qu'on prenne soin les uns des autres ? Est-ce qu'il est important que nous proclamions l'Évangile d'une manière plus claire, peut-être plus audacieuse, à ceux du dehors ? Est-ce qu'il est important qu'on se renseigne, qu'on se maintienne à flot au niveau de l'actualité politique, législative, parce qu'il se passe des choses et que si les chrétiens n'ont pas une parole là, pertinente et claire, on n'est pas à notre job ? D'église prophétesse ? Est-ce qu'il faut qu'on soit dans la diaconie ? Est-ce qu'il faut qu'on aille aider le pauvre et l'intelligent dehors ? Qu'est-ce qui est important maintenant ? Pour nous ? Mais pour vous et moi individuellement ? Parce que oui, Seigneur, en écho avec ces paroles de Jean-Baptiste, je me dis, oui, il y a plein de choses dans ma vie auxquelles j'aimerais renoncer. Hein ? Repentez-vous, changez de vie et Dieu vous pardonnera vos péchés. On entend cette phrase ? C'est un peu hypocrite, on dit oui, je l'ai déjà fait. C'est un peu lucide. La pilule passe un peu moins facilement parce qu'on se dit oui, il y a bien des choses dans ma vie que j'aimerais qu'elles ne soient plus là depuis longtemps. Et si j'imagine, si je considère tout le chantier de ma vie, par où je commence ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important ? Et voyez, de la même manière que Paul est en train de dire à cette église, vous savez, toute cette merveilleuse œuvre de proclamation de la parole auquel vous avez participé, ben c'est Dieu qui l'a commencé et c'est Dieu qui va le finir. Et donc, on n'est que des collaborateurs. Mais voyez, cette merveilleuse œuvre de sanctification dans votre vie, ben c'est Dieu qui a commencé et c'est Dieu qui va la terminer aussi. Et de la même manière, vous êtes appelés à être des collaborateurs. Des collaborateurs. Alors s'il y a un repas fraternel qui est organisé et que je ne sais pas trop quoi faire de mes 10 doigts et que je rentre dans la cuisine et que je tombe au hasard sur Suzy en train de préparer quelque chose, je vais lui dire « qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce qui est important, utile ? Mais de la même manière, cherchons à vivre ça auprès du Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, dans ma vie, en ce moment, c'est quoi le chantier ? C'est quoi le chantier ? Parce qu'un chantier, ça se réalise dans un certain ordre. On ne va pas faire les enduits en premier si d'abord il aurait été plus sage de repasser des câbles dans le mur et de faire des saignées. Ah ben on a tout repeint. Ben oui, mais il fallait poser des câbles. Qu'est-ce qui est important ? Et la troisième chose, troisième passage que je voulais mettre en évidence, la fin de ce petit passage. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, une vie qui vous est donnée par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Une vie qui vous est donnée par Jésus-Christ. Cette vie nouvelle, hein, cette énergie dont j'ai besoin pour vivre le chantier, cette sagesse dont j'ai besoin pour discerner ce qui est important maintenant, à la fois dans ma vie, à la fois dans mon foyer, à la fois dans ma communauté. Le fioul, c'est la vie de Jésus, c'est celle que j'ai essayé de vous communiquer, l'idée, l'image que j'ai essayé de vous communiquer à la Sainte Cène. Vous avez pris le pain, vous avez pris le vin. C'est un signe concret de ça, cette vie donnée par Jésus-Christ, et elle est en vous. Et il nous faut apprendre à puiser dedans. Utilisez-la. Seigneur, il y a ce moment où, là, ce qu'on appelle ma vieille nature, mes habitudes, mon instinct, ma peur, peur du conflit, peur de l'échec, peur du jugement, du regard des autres, peur de me faire avoir, une fois de plus, me pousse à, ma colère me pousse à. Je m'empare de cette vie. Seigneur, que ta vie en moi, là, se manifeste. Seigneur, j'ai tel projet, je crois que c'est pour toi que je le fais, je veux le vivre avec toi. Je veux être en collaboration avec toi. On en parlait au groupe de maison. Cette prière des diaconesses de Rilly se levait le matin, elles posaient le pied par terre, à côté de leur lit, et disaient « Seigneur, ta servante se lève ». Comment vivre une vie conduite par le Seigneur. Alors voilà, comment vivre ce temps de l'attente de Jésus ? Comment vivre ce temps de l'attente de Jésus ? Dès maintenant, je vis cette collaboration avec lui. Avec ce repos déjà en moi que Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement. Quel repos ! Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Comme Paul disait, ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ou comme Paul dit aussi à la fin de la lettre aux Thessaloniciens, cette bénédiction finale. Que Dieu, la source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, écoutez cette phrase, elle est géniale. Celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui accomplira cela. Nous ne travaillons pas en vain, nous n'œuvrons pas en vain, nous ne nous efforçons pas en vain d'être ses collaborateurs de Christ, parce que nous avons la certitude qu'il accomplira son œuvre bonne en vous. En nous, pardon, moi aussi j'en ai besoin. Mais veillez à ne pas user de vos propres forces. Veillez à ne pas faire, non, bouge pas Seigneur, je vais le faire et te montrer comment je t'aime, parce que je l'aurais fait tout seul. Vous allez vous épuiser et vous allez tomber et perdre à la fois du temps, de l'énergie, de la patience, peut-être vous faire mal ou faire du mal. Non, cette œuvre, elle se vit vraiment en collaboration avec le Seigneur, en collaboration étroite avec le Seigneur et en puisant dans cette vie qu'il vous donne, en puisant quotidiennement, autant que faire se peut, abondamment, abusément, dans cette vie que le Seigneur vous donne. Que la grâce et la paix de Jésus vous accompagnent. Amen.